France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
Oui, c'est bon.
Des poireaux, dis, j'ai besoin des poireaux.
Un poireau?
Il y a du poireau l'été, il y a du poireau l'hiver, il y a du poireau l'automne. Donc c'est vraiment un légume facile, hyper accessible. Et dans le poireau, tout se mange.
Oh, c'est pas beau ça.
Si, je trouve ça très joli, moi.
Oh non, c'est très laid, ça.
Un plat classique qu'on retrouve dans tous les bons bistrots. Un poireau vinaigrette.
Oh. Bien sûr, la soupe poireau pommes de terre, ça l'hiver, c'est délicieux. Mais on peut aussi faire des crumbles, des gratins, des tartes.
Vous finissez par les poireaux, Louis?
Non, merci, maman.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Sale temps pour le poireau, tous les chiffres le montrent. Les Français le boudent ostensiblement et les maraîchers se retrouvent en ce moment avec de la surproduction sur les bras. Mais pourquoi donc ce désamour face à un légume si populaire? En plus, il est bon marché, goûteux, c'est ce qu'on va voir, et très très docile en cuisine. Eh bien, on va ensemble essayer de comprendre cette drôle de situation. On va même tenter de sauver le soldat poireau avec nos invités. Lucie de Framont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maraîchère en Île-de-France, à oui. Vitry-sur-Seine, c'est bien ça?
Tout à fait, dans le Val-de-Marne.
On est dans la petite couronne de Paris. Et vous cultivez pas mal de légumes. Et parmi les nombreux légumes que vous cultivez sur sol vivant, il y a un poireau que vous affectionnez particulièrement. C'est le poireau de...
Gennevilliers.
Le poireau de Gennevilliers, un poireau ancien qui est une star du maraîchage parisien. C'est ce que l'on va voir ensemble, qui a quasiment disparu. Vous allez nous raconter votre super aventure. Adrien Ferrand, bonjour.
Et bonjour.
Vous êtes un de nos cuisiniers chouchous dans cette émission, chef de Hills, une table gastronomique qu'on apprécie beaucoup dans la bande, dont vous nous rappelez l'adresse.
27 rue d'Hauteville, dans le 10e arrondissement.
Absolument, et vous avez toujours la Brigade du Tigre.
Exactement, juste à côté.
Juste à côté, on est rue du Faubourg Poissonnière,
exactement.
Et vous venez régulièrement à ce micro pour cuisiner les produits que vous appréciez, et le poireau, on peut le dire, vous inspire.
Merci de m'accueillir. En effet, avec l'équipe, on s'amuse souvent à faire notre top 5 des meilleurs légumes, des meilleurs fruits, des meilleurs poissons, les protéines. Et moi, le poireau, il arrive en tête avec la betterave.
Carrément. Bah, ouais. Écoutez, on a trouvé vraiment l'homme de la situation pour nous faire de très belles choses autour du poireau. Le poireau, un légume de poids dans l'histoire de la cuisine française. Notre historien maison a mené l'enquête. Bonjour Loïc Bienassi.
Bonjour.
Alors ?
Oui, en effet, une histoire longue qu'on peut même, d'ailleurs au-delà de la cuisine française, on va même remonter dans l'Antiquité.
Oula, carrément. Avec nous également pendant toute l'émission, notre chroniqueur vin, Jérôme Gagnès, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors,
on va parler d'un vigneron non pas français mais de Navarre.
De Navarre, ah, bah on est un peu en France quand même.
Oui, mais quand même Navarre.
Pour réagir, intervenir, nous suggérer vos recettes autour du poireau, envoyez-nous un email à onvadéguster@radiofrance.com et abonnez-vous au podcast d'On va déguster sur l'appli de Radio France. Retrouvez tous nos contenus, recettes, adresses, infos pratiques sur radiofrance.fr à la page On va déguster.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Juste avant de cultiver et de cuisiner le poireau, je vous ai apporté ma petite surprise de la semaine. Tout cela se joue évidemment à l'aveugle. Alors je préfère vous dire qu'on commence l'émission par le dessert, et pas n'importe quel dessert. Le plateau avec un drôle de truc dessus arrive, et c'est notre cuisinier Adrien Ferrand qui va tout simplement le couper. Alors déjà, Adrien, est-ce que vous pouvez nous dire comme ça à l'aveugle ce que vous avez sous les yeux?
J'ai l'impression d'avoir une sorte de flan au chocolat, donc les deux idées me plaisent.
On n'est pas tout à fait sur un flan, mais vous allez voir.
Ou alors un big fondant ou moelleux au chocolat.
Ah, alors là, vous brûlez carrément. Il s'agit en effet d'un fondant au chocolat, mais alors il y a quelque chose à l'intérieur. Oui, c'est une surprise.
Ah oui, on voit apparaître quelque chose.
Une sorte de crème pâtissière peut-être?
Oui, un truc de ce genre-là.
Un chocolat blanc?
Et ça a l'air extrêmement appétissant, votre affaire. Bah,
ça coule dans tous les sens, il y en a plein de couteaux.
Oui, c'est bien ça.
Ouais, on aime bien.
Oui, très bien.
Oui.
Je n'ai pas encore goûté, mais je vote pour. Ça a l'air bien gras, c'est nickel.
Ah ben, c'est un sacré truc, je peux vous dire.
Ah là là.
Allez-y, alors, vous découpez les parts. Les assiettes vont circuler autour de notre plateau.
Il y en aura pour tout le monde.
Bon, dépêchez-vous, Adrien, on n'en peut plus.
Oui. Allez, c'est parti. Il y a de la vanille à foison. On n'est pas fâché avec le bonheur, non.
Aïe, 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 aïe. Oh.
Loïc Bienassi.
Oui, donc une crème vanillée un peu épaisse. C'est pas la crème pâtissière, là. C'est,
non, c'est la crème.
Peut-être de la crème anglaise, mais c'est un peu épais.
Gagné. Alors, un peu épaisse, en effet, mais c'est de la crème anglaise, a absolument.
C'est délicieux. Quel est le fou furieux qui fait ça?
C'est incroyable ou pas?
Ah, c'est extraordinaire. Ah, c'est...
Lucie?
Ah, c'est diabolique.
Ah oui, c'est, ah oui, c'est absolument dingue.
Pour les fins de journée où on a bien travaillé. Hein.
Oui, ça c'est sûr. Adrien?
C'est vraiment excellent, oui. Ça coule de tous les côtés.
Oui.
Il y a le marron qui se mélange avec le blanc. On ne sait plus trop où est-ce qu'on habite, mais c'est vraiment très bon.
C'est un mi-cuit au chocolat avec cette surprise à l'intérieur, ce cœur coulant de crème anglaise. Ça s'appelle l'indécent et c'est la dernière création d'une femme qu'on connaît bien dans cette émission. On la suit vraiment depuis ses tout premiers pas en qualité de pâtissière. C'est Fiona Leluc, fondatrice de Bon Temps, une pâtisserie qui a vraiment de très nombreux aficionados, une pâtisserie parisienne. Je fais partie de ces aficionados. Et elle a mis effectivement en vitrine il y a quelques jours de ses deux boutiques parisiennes ce gâteau qu'elle a donc baptisé l'indécent. J'imagine que vous comprenez pourquoi. Et ce gâteau est né en fait d'une envie. Elle adorait manger le mi-cuit ou le fondant au chocolat avec de la crème anglaise. Et d'habitude, pour les grands formats dans sa boutique, elle proposait à la vente un pot de crème anglaise à part. Elle a voulu essayer d'intégrer cette crème anglaise à l'intérieur du fondant, notamment pour limiter le packaging. Et après quelques essais, elle est arrivée à cette texture absolument incroyable.
Ça fonctionne.
Où vous avez l'intensité du chocolat et en même temps la douceur vanillée de la crème anglaise. Et cet indécent fait bouche, quoi, non?
Ah, c'est extraordinaire, franchement.
C'est un très bon gâteau.
Plus, là. Ah si, il en reste un peu.
Non, ça c'est mon assiette, je l'ai gardé pour la fin de l'émission. Donc si, attention, je meurs. Hein.
Et je précise en plus là qu'en fait on le mange froid hein, et ça marche très bien, le cœur est coulant.
C'est extraordinaire. J'aimerais bien, ce serait intéressant de savoir comment elle arrive à faire cette crème anglaise,
ouais.
Quand même qui est relativement serrée.
Oui, c'est vrai.
Petite gélatine ou quelque chose comme ça.
Je n'ai malheureusement pas, Jérôme, toutes les réponses
à vos
questions. Eh bien
Fiona, nous sommes impatients d'avoir votre réponse.
Absolument. Il y a deux formats pour ce gâteau. Il y a un bon gros format à 25 euros. Ce qui reste, dans le contexte parisien, un prix raisonnable.
C'est 6 personnes, 25 euros?
Oui, largement.
Oui, c'est très raisonnable.
Et le petit format à 12 euros. Voilà, l'indécent, le mi-cuit au cœur coulant de crème anglaise. Chez Bontemps, 57 rue de Bretagne, Paris 3e, ou 23 rue Poncelet, Paris 17e. C'est quand même une sacrée découverte. Hein.
Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Aux manettes de la console pour mitonner cette émission, Laurent Thomas, Guillaume Roux et Fabrice Ribault ont fait des folies avec ce merveilleux légume qui est le poireau, juste après Cobra, le nouveau titre du groupe de Brooklyn, Guise. Bon appétit sur France Inter.
Un appel a été lancé à manger des poireaux pour venir en aide à la filière en raison d'une surproduction, Charlie.
Eh oui. Si la douceur freine votre envie d'en déguster en soupe ou en gratin, osez les en salade ou en vinaigrette. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, rappelez-vous qu'il y a 30 ans, un président a été élu en disant « mangez des pommes ».
Merci Charline Van Hunecker. Baby, let me dance away forever. Baby, let me dance away forever and ever, yeah, baby. Let me dance away. Let me dance away forever, baby. You should be ashamed. You should be ashamed, only daughter. Whatever he's got in his hand, you can get it. Inter.
Au marché, comme dans les grandes surfaces, carottes, choux, poireaux peinent à s'écouler, même à prix compétitif.
La préparation, ça prend quand même du temps.
On a des enfants qui rentrent à la maison et qui font en plus préparer le dîner, c'est plus simple de mettre quelque chose au micro-ondes.
Loin des supermarchés, dans les champs aussi, les légumes sont en quantité. Les agriculteurs font face à une surproduction, 5% de récolte en plus par rapport à l'an dernier.
Depuis le printemps, le climat est favorable à la pousse de légumes. Aucun des bassins en Europe n'a été touché par des aléas climatiques. On tire les quelques vieilles feuilles pour qu'ils donnent envie le plus possible aux consommateurs de les acheter.
Et malgré ça, il peine à vendre. Aujourd'hui, son kilo de poireaux est acheté 40 centimes par la grande distribution, alors qu'il lui coûte 60 centimes à produire.
Ce qu'on peut demander, c'est allons-y, achetons un kilo de poireaux, c'est bon pour la santé. Et puis ça aidera la production légumière française à passer cette mauvaise année.
Alerte, poireaux en danger, surproduction du côté des maraîchers français, notamment à cause d'une météo exceptionnellement douce ces derniers jours et dernières semaines qui a accéléré la production. Et du côté du consommateur, un certain désamour, il faut bien le dire, pour ce légume populaire. Selon France Agrimaire, le marché du poireau est en crise conjoncturelle depuis fin janvier. L'indicateur de marché du poireau affiche un prix en retrait de 36% par rapport à la normale. Et on l'entendait même dans cet extrait d'un reportage de TF1. Certains producteurs, comme dans la Manche, sont contraints de vendre leurs poireaux à perte. Et malgré les prix bradés, les Français boudent toujours ce légume. Alors évidemment, on ne saurait leur recommander de se remettre à cuisiner le poireau. Et on va essayer de comprendre pourquoi c'est pas facile en ce moment d'être un poireau. Pourquoi il y a comme ça une désaffection pour le poireau, à votre avis, Lucie de Framont ?
Alors, je sais pas trop dire, parce que moi, j'aime beaucoup et je suis en contact avec des personnes qui l'achètent volontiers. Donc, c'est
vos poireaux
pas
à vous
immédiat.
Ont du succès.
Oui, oui, tout à fait. Ils sont pas boudés, mais il est possible que ce soit un légume qui demande un petit peu trop de préparation pour certains.
Eh oui, parce qu'il y a effectivement cette partie verte. Alors peut-être que le poireau est un légume trop grand qui rentre pas forcément dans le frigo. Il y a cette partie verte dont on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que vous en pensez, Adrien Ferrand ?
Moi, je trouve que c'est la classe d'avoir un poireau en dessous le bras, comme une baguette en bon français qui va au marché. Mm-hmm. C'est plutôt cool. En effet, c'est un légume qui n'est pas facile à cuisiner si on n'en a pas les us et coutumes. Il est un peu sous-coté et boudé, comme vous l'avez dit précédemment. Et moi, je conseillerais vachement les auditeurs à l'imaginer en deux légumes en un, les verts d'un côté, les blancs de l'autre.
Oui.
Le blanc, l'utiliser plutôt pour des préparations longues, pour des pot-au-feu, pour des fondus de poireaux, pour des emberrés de poireaux, on y viendra tout à l'heure. Et le vert plutôt comme une ciboulette, comme un aliacé cru, un oignon, une échalote, plutôt en assaisonnement, en topping, sur un bouillon, un consommé chaud à la maison.
Et alors là, on évoque vraiment un vert de poireau émincé très fin.
Exact, ouais.
Un peu comme un condiment qui pourrait remplacer l'oignon, la ciboulette, qui sont d'ailleurs de la même grande famille botanique, les aliacées ou liliacées. Alors ça a changé selon évidemment les classifications avec les recherches de la génétique. Maintenant, on parle de
Amaryllidacées.
Amaryllidacées, absolument. C'est le nouveau nom de la famille botanique.
J'ai mes notes, parce que...
C'est en gros toutes les plantes à bulbes, on va dire.
Oui, en effet, exactement. Du coup, dans une salade, au dernier moment, comme si on mettait une échalote, comme si on mettait un oignon, ou une ciboulette dans une crème aigrelette, etc., le poireau haché fin, il en a exactement les mêmes intérêts. Il est un petit peu acide, il est un petit peu piquant, et puis on n'est pas obligé de toujours se dire comment est-ce que je vais transformer mon verre de poireau en huile, en condiment, ou alors juste en garniture aromatique. Moi, je pense que le verre de poireau, il a vraiment des lettres de noblesse.
Jérôme Gagnez.
Mais oui, moi j'avoue que c'est vraiment très incompréhensible pour moi, parce que à l'inverse de bien d'autres légumes qu'il faut éplucher, ça prend du temps, les petits pois, il faut les écosser, tout ça prend beaucoup de temps. Un poireau, on le coupe en deux, on le rince rapidement à l'eau, ensuite on le coupe en plus ou moins gros tronçons, on le fout dans une cocotte, et puis terminé, bonsoir, on la couvre, on part faire autre chose, et une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard, il y a un fond d'eau, il y a un peu de beurre, c'est cuit, ça fait une magnifique fondue. Il n'y a rien de plus simple que de faire un poireau.
Surtout à l'heure en plus où on se plaît. plaint quand même d'une alimentation trop chère. On parle d'un légume qui coûte vraiment pas cher au kilo.
Oui, je cuisine comme je peux. Je suis pas un cuisinier, mais pour moi, c'est vraiment un légume qui est incroyablement simple à faire.
Alors, je vous propose de redorer le blason du poireau avec un plat signé Adrien Ferrand qui a sous vos micros. On attaque directement. On est comme ça dans cette émission. On a affaire à quoi, à votre avis, Loïc Bianassi?
C'est d'abord un joli plat, parce que c'est vraiment un beau dressage. Alors, moi je vois des agrumes qui surplombent donc les... qui dissimulent presque des poireaux. Et qui... Donc poireau vinaigrette.
Bravo, on est dans un classique revisité.
Revisité, oui.
Poireau vinaigrette, alors avant même... Oh là là, c'est bon. Avant même qu'Adrien Ferrand nous explique justement la façon dont il a réinterprété ce grand classique de la cuisine française, est-ce que vous pouvez, cher Loïc, notre historien, resituer le poireau vinaigrette? On le prend souvent pour un plat emblématique de la culture bistrotière, mais je suis sûr que vous allez me dire que c'est plus compliqué que ça.
Non, je dirais que ce statut-là, il l'a peut-être acquis dans les années 70.
Oui.
C'est un plat de la culture, de la cuisine populaire, incontestablement, de la cuisine ménagère, d'abord, avant d'être de la cuisine bistrotière. Moi, les premières mentions que j'ai repérées, c'est dans les années 1870. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, évidemment, mais on commence à en parler à ce moment-là. Par exemple, j'ai trouvé le courrier d'un maraîcher en 1882, il écrit à la revue Horticole et il explique que lui, alors il est basé à Montreuil, il explique que lui, il remplace l'asperge par des poireaux et qu'il les consomme comme ça, à la manière d'asperge, soit avec de la sauce blanche, soit avec de la vinaigrette.
Donc ce serait un peu l'asperge du pauvre.
C'est exactement ça. Et on retrouve ça sans arrêt. Par exemple, j'ai un texte de 1948, où il est dit que le mousseux est au champagne ce que les poireaux en vinaigrette sont à l'asperge. Et il y a cette idée d'asperge du pauvre. Donc c'est un plat de cuisine ménagère, incontestablement, qui remonte peut-être plus que les années 1870, mais c'est là où il s'installe vraiment, c'est clair. Et cuisine de bistrot, je pense que c'est vraiment finalement assez récemment, c'est-à-dire, oui, c'est ça, années 70, où on commence clairement à estimer que c'est un des plats emblématiques de cette cuisine de bistrot.
Et un plat qui reste tout à fait populaire.
Ah, toujours. Oui, il y a toujours cette idée, en effet, d'un plat simple, d'un plat peu cher. Simple à réaliser, donc oui, clairement.
Est-ce que vous aimez, Lucie de Framont, cette réinterprétation du poireau vinaigrette signé Adrien Ferrand?
J'adore.
c'est excellent. Vrai
oui, oui, oui.
Ça vous plaît?
Ah bah oui. Il y a tout le goût du poireau.
Oui, c'est vrai.
On sent bien, il est juste cuit, on sent bien le piquant du poireau. Et puis avec ce qu'il y a autour, le croquant des amandes, le sucré des agrumes, oui, c'est vraiment excellent.
C'est excellent, et ce qui est vrai, c'est que le poireau, par son caractère un peu oignon, un peu piquant, résiste en fait même à des assaisonnements un peu intenses.
Et justement, vous avez fait, Adrien, ce que vous préconisiez il y a quelques instants, c'est que vous avez émincé le verre,
exactement,
cru, et ça c'est une chose à laquelle je n'aurais pas pensé, et je vais me précipiter chez moi pour le faire, parce que ça apporte ce que vous disiez, une vivacité, une acidité, un piquant, qui relève beaucoup, c'est extrêmement réussi. C'est une très bonne idée, le verre.
Sacré beau plat. Alors, Adrien, le secret de ce plat très réussi, et visuellement en plus... très très chouette, avec ces petits morceaux de segments, d'agrumes, le vert de ce poireau qui pète.
Bah, on n'est pas sur une grande réinterprétation. Finalement, c'est juste une recette avec trois ingrédients. Le poireau, un agrume de saison. Donc là, on a choisi la mandarine. Si on avait fait l'émission en janvier ou février, on aurait choisi la clémentine. Et puis des amandes torréfiées. En effet, les vers de poireau, on les a juste fait macérer dans des jus de mandarine pendant une petite quinzaine de minutes.
Donc les vers de poireau, vous les émincez d'abord finement?
Exact, on les lave, on les émince très finement, et ensuite on les fait macérer dans ce jus de mandarine, et ça va finalement un petit peu les cuire avec le sel,
et
l'huile d'olive.
Et assouplir un peu les fibres.
Exactement. Mais je sais pas vous, mais moi, limite, ce que je préfère dans cette assiette, c'est les vers de poireau avec les agrumes.
C'est délicieux.
C'est délicieux. Le poireau en dessous, il est juste cuit, pas trop filandreux.
Alors, cuit comment? Parce que là, ensuite, la partie blanche, non, parce qu'il est cuisinier, tout est évident. Mais la partie blanche, on appelle ça les fûts, hein, c'est ça?
Ouais, exactement.
Et là, vous les cuisez comment, Adrien?
Alors, on peut les faire étuvés à la maison, donc un petit peu d'huile d'olive. On les fait rissoler tout doucement à 5 sur l'adduction ou à feu doux, juste pour faire un petit peu transpirer le poireau, faire sortir ce qu'on appelle communément l'eau de végétation, mais qui a un goût absolument génial avec le sel qu'il fait ressortir. Un petit peu d'eau, un couvercle, et ça cuit tout seul. Mais à l'eau, bien salé, à la vapeur, salé au sel fin au préalable, ça marche pareil.
Et vous êtes plutôt poireau fondant que croquant, pour, s'agissant du blanc.
C'est à vous de me donner votre
avis.
Il est
parfait. Cuisson parfaite.
Exactement. Là, pour le coup, moi, j'aime pas les poireaux trop croquants, parce que je trouve que ça devient un peu fort.
Il y a du croquant
quand même,
là.
C'est très chiant à couper, je suis bien d'accord. Oui, il y a à peine... Non, pour le coup, c'est parfait, la cuisson. C'est vraiment...
Non, mais c'est une recette extraordinaire et toute simple. Et surtout, effectivement, cette recette qui a le génie d'intégrer le verre de poireau dont on ne sait que faire d'habitude. Vraiment, bravo. Hein.
Et avec plaisir. Finalement, ce qu'il y a de plus difficile, c'est d'avoir un bon couteau pour couper correctement les verres de poireau, et ensuite un bon couteau à table pour couper les poireaux cuits à la vapeur en poireau vinaigrette.
Et cette première recette d'Adrien Ferrand est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Lucie de Framont, vous avez créé, il y a 12 ans, nous étions en 2014, La Clé des Sols. Dites-nous où vous êtes et à quoi ressemble votre petit écosystème.
La Clé des Sols, à Vitry-sur-Seine, donc en plein cœur du Val-de-Marne.
C'est vraiment aux portes de Paris.
C'est tout près de Paris, quelques kilomètres du périph, hein, donc juste au sud de Paris. C'est un petit îlot de verdure aujourd'hui, alors que c'était un désert quand j'ai repris. J'ai succédé à un floriculteur hors sol, donc le sol était un support. Il fallait juste qu'il n'y ait rien qui pousse dedans, justement. Donc, j'ai ouvert le sol, je l'ai couvert de matière organique, je l'ai arrosé juste ce qu'il fallait. Et année après année, j'ai vu le ver gagner du terrain. C'est même quasiment problématique aujourd'hui, parce qu'il y a une flore spontanée qui prend de la place, qui s'y sent bien, qui est bien installée. Et donc, j'ai dès le départ introduit une trentaine de légumes de maraîchage de saison.
Sur quelle superficie ?
Alors, j'ai plus d'un hectare au total, mais je travaille beaucoup en manuel. J'ai très peu de machines, principalement des tondeuses, on va dire. Et tout ce qu'on fait à la main, forcément, ça prend du temps, c'est difficile et on ne couvre pas vite des surfaces. Donc, en maraîchage pur, je couvre 3000 mètres carrés à peu près.
Et vous avez entre 30 et 40 variétés de plantes potagères, de légumes ?
Oui, alors là je dois être à peu près à 45 légumes différents. Et quand je dis légumes différents, par exemple, je compte une seule fois l'oignon, alors que je fais de l'oignon botte et puis je fais de l'oignon de conservation. Donc il y a différents cycles en fait, de culture qui donnent des légumes différents, mais 45 c'est les espèces en fait, différentes.
Vous travaillez sur sol vivant. Vous êtes en bio.
Je travaille sur sol vivant, en bio, oui, évidemment. Ça, c'était,
bien plus
c'était
que bio
le point
même,
de départ, mais voilà, ouais, plus que bio. Et je ne m'aime même pas en général les traitements qui sont autorisés en bio. J'essaye de favoriser la vie du sol pour que les plantes soient en bonne santé, principalement.
Et vous êtes l'une des seules dans l'Île-de-France, si ce n'est la seule. Alors, on n'a pas vérifié, mais on a fait des recherches, parce qu'il y a un poireau qui m'intriguait, qui porte le nom, effectivement, d'une commune d'Île-de-France. Reliquat ou souvenir d'une époque maraîchère brillante en Île-de-France, eh bien, c'est Gennevilliers qui fut le berceau d'une variété de poireaux que vous nous avez apporté. Est-ce que vous pouvez nous le montrer ? Le poireau de Gennevilliers.
Voilà, le poireau de Gennevilliers.
Comment vous l'avez choisi, celui-là ?
Sur une liste de variétés, j'ai vu ce nom et je suis banlieusarde, hein, Gennevilliers, je vois bien où c'est.
Ouais.
Et donc ça m'a intéressé de partir sur une variété locale. Je cultive pas seulement le Gennevilliers, mais c'est le deuxième poireau que j'ai choisi. Hein. Petit à petit, j'introduisais des variétés différentes et je l'ai gardé depuis.
Pourquoi vous l'appréciez ?
Je trouve qu'il se comporte bien dans mon sol, il réussit bien. Et il est différent de... On trouve beaucoup de poireaux bleus. Là, c'est un poireau bien vert,
oui.
Avec un feuillage assez fin. Alors à la fois fin en largeur et fin en épaisseur. C'est-à-dire que pour devenir gros, il faut qu'il fasse beaucoup de feuilles.
Oui.
Contrairement à d'autres poireaux qui ont des feuilles très épaisses. Et donc avec 5 feuilles, on a déjà un gros fût. Là, il faut qu'il ait vraiment développé un paquet de feuilles avant que ça atteignent un gros diamètre.
Le poireau de Gennevilliers, en faisant nos recherches, était particulièrement réputé à la fin du 19e siècle, notamment avec la grande saga du ventre de Paris, des Halles, précisément parce qu'il était considéré comme extrêmement sucré et en plus assez fondant. C'est un poireau qui n'est pas très fibreux, qui n'est pas très ligneux. Cela signifie que, en fait, on arrive assez rapidement à une texture finalement assez...
fondante.
Assez fondante, ouais. Mm-hmm. Et en plus, ce qui fait votre spécificité, c'est que vous produisez vos propres semences de ce poireau. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez acheté évidemment des graines.
Effectivement, j'ai acheté des graines, j'ai fait mes semis et j'ai transplanté les jeunes poireaux dans les champs. Beaucoup de mes collègues, en fait, achètent du plant de poireaux. C'est-à-dire qu'on appelle ça de l'arachis. Donc, ils achètent des caisses d'arachis de poireaux et ils les plantent directement dans les champs. Moi, je préfère partir de graines. Ça permet de choisir vraiment les variétés qu'on veut. Et ça permet de refaire ses propres graines. Donc, le poireau est une bisannuelle. Il fait sa fleur la deuxième année. Donc, pour obtenir des graines de poireaux, il faut laisser un certain nombre de poireaux dans les champs. Le printemps venu, il commence à avoir une tige qui s'allonge et il fait une bonne grosse fleur bien ronde,
c'est ça,
comme la fleur d'oignon.
Ça fleurit et ensuite ça monte en graines, selon l'expression consacrée.
Ça monte à graines, tout à fait. Et quand on laisse les fleurs se former et les graines se former, il faut attendre que la tête sèche. Et après, il suffit de secouer et on récupère un stock de graines. Donc c'est assez facile à faire. Il vaut mieux faire une seule variété à chaque fois parce que sinon, les variétés se mélangent. Si on veut vraiment conserver une variété, en tout cas, il faut privilégier une chaque année. Et une fois qu'on a ses semences, on peut repartir de semences. Donc ça n'intéresse pas ceux qui utilisent des plants directement fabriqués par d'autres. Mais quand on part de la graine, c'est un cycle magique.
En fait. Mais c'est ça, ça veut dire que vous entretenez l'espèce d'année en année, de saison en saison, et ce poireau de Gennevilliers, visiblement, s'est parfaitement acclimaté dans votre ferme de Vitry-sur-Seine, c'est incroyable. Est-ce que, Adrien Ferrand, vous connaissiez le poireau de Gennevilliers ?
Oui, en effet, c'est une appellation qu'on retrouve souvent en cuisine. Et je rebondis par rapport aux têtes pleines de fleurs de poireaux. Nous, on adorerait les avoir dans la cuisine du 10e arrondissement.
Et ben voilà.
Parce qu'en effet, toutes ces petites fleurs de poireaux sucrées et pareil, un petit peu épicées, un petit peu acides du poireau, nous, on les adore, on les chérit dans les cuisines.
Il n'y a que les cuisiniers qui peuvent avoir accès à ce genre de produits, mais c'est vrai que comme la fleur d'ail, la fleur de ciboulette, la fleur d'oignon,
fabuleux.
C'est comme une espèce d'épice fraîche qu'on peut utiliser, j'imagine.
Ah, exactement, ouais, ça fait partie des fleurs qui servent à quelque chose dans des assiettes, oui.
France Inter.
Nous ne sommes pas historiens, mais nous aimons les bonnes histoires, même si elles sont inventées.
On va déguster.
Loïc Bienassi, vous avez sous les yeux ce fameux poireau de Gennevilliers, sachant qu'il y a environ entre 20 et 30 variétés régionales de poireaux en France qui portent des noms de communes ou de lieux-dits. Est-ce que cela veut dire que le poireau est un légume bien de chez nous ?
Il l'est devenu sans doute, mais évidemment son histoire longue nous renvoie plutôt vers d'autres espaces. Alors la région d'origine, c'est un peu débattu, on parle de l'Asie centrale, de la Méditerranée orientale. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, il s'est différencié à partir de plantes sauvages, logiquement, qu'il a peut-être été domestiqué deuxième millénaire, peut-être en Égypte. Mais en même temps, il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans l'Antiquité, il y a à la fois des poireaux qui sont cultivés, on en a trace au 1er siècle après Jésus-Christ, pour leur tête et pour leur bulbe. Et on a aussi des poireaux qui sont cultivés pour leurs feuilles, c'est-à-dire qu'on coupait les feuilles et c'est ces feuilles-là qu'on cuisinait. Donc il y a deux types de poireaux.
Ah, donc Adrien Ferrand n'a rien inventé avec son verre de poireau.
Je le crains. Mais, bon. Mais il ne le prétendait pas, d'ailleurs. Et donc... Il y a cette famille et le poireau est issu d'une sélection. Précisément, le poireau, on a réduit le bulbe. C'est ça l'idée. Donc, il y a eu tout un travail de sélection. Mais on voit au XVIe siècle des représentations de poireaux où le bulbe est encore bien présent. Alors, est-ce qu'il y avait différentes sortes et qu'au Moyen-Âge, on a déjà quand même à peu près le poireau moderne ? C'est difficile à déterminer. Ce qui est sûr, c'est que ce travail de sélection fait que au XIXe siècle, on arrive déjà avec, je ne sais pas si par exemple on prend le catalogue Villemorin à la fin du XIXe siècle, 1883, On voit qu'il parle du poireau long d'hiver de Paris, du poireau gros court, du jaune du Poitou, du très gros de Rouen, du poireau monstrueux de 40 ans.
J'adore, les noms de légumes, c'est un poème.
Ah oui, tout à fait. Et c'est allé un peu crescendo. Gennevilliers. Ah. Finalement, c'est d'abord un lieu, évidemment.
Alors là, on parle quand même d'une commune qui est à l'ouest de Paris, on est dans les Hauts-de-Seine, limitrophe, je crois, d'ailleurs, de Asnières-sur-Seine. Hein.
Ouais, on parle même de la presqu'île, c'est dans un méandre, en fait, de la Seine.
92. Ouais.
Alors, ça a été un lieu, mais ce qui est amusant, c'est que l'histoire maraîchère de Gennevilliers, qui était vraiment une des grandes communes maraîchères, elle est liée aux égouts. Parce qu'en fait, c'est à partir du moment, dans les années 1860-1870, que Paris a décidé d'envoyer ses eaux d'égouts à Gennevilliers, que ça a permis de fertiliser les sols.
Non mais attendez, il y a Lucie de Framont qui est en train de lever les yeux au ciel. Vous êtes en train de nous dire que l'essor du poireau de Gennevilliers repose, a poussé sur les eaux usées de Paris.
Alors, d'abord, je vous prie de m'excuser, et ensuite, oui. C'est-à-dire que, clairement, c'est ça qui a rendu cette commune, qui n'était pas spécialement réputée pour ses produits, qui a été un haut lieu du maraîchage parisien, dans cette ceinture, en effet, qui nourrissait Paris. Et le poireau de Gennevilliers, on commence à en trouver vraiment trace des mentions dans les années 1880. Comme variété, je dirais plutôt que c'est dans les premières décennies du XXe siècle qu'elle commence à s'affirmer. Et on a comme ça, par exemple, il y a une autre commune qui était réputée, c'était Mézières. Là, on est dans les Yvelines. Et là aussi, il y a une variété du poireau de Mézières qui était fin 19e, qui était tout à fait reconnue. Donc c'est cette histoire très parisienne aussi qu'on raconte à travers cette variété.
Et que Lucie de Framont continue à raconter, c'est ça qui est beau en fait. Vous le connaissiez aussi le poireau de Mézières ou pas, Lucie ?
Alors non, j'en ai pas entendu parler. Je suis pas sûre qu'on en trouve des graines actuellement.
Je sais pas s'il est encore courant, non.
Vous avez d'autres légumes qui ont vraiment une origine francilienne ou pas spécialement ?
Oui. Alors, il y a une zone maraîchère historique qui est la Plaine des Vertus.
Et oui.
À Aubervilliers. Et là, on trouve pas mal de légumes. Il y a l'oignon jaune paille des vertus, il y a le navet marteau des vertus. Donc, il y a une série de légumes des vertus, le chou pointu des vertus. Donc, voilà, j'en
tout ça, c'est la même histoire, en fait, de la banlieue parisienne qui nourrissait la ville. Quoi.
Tout
c'est
à
ça,
fait, oui. Et l'oignon de Malakoff aussi.
Ah ouais, l'oignon de Malakoff, intéressant. Et on a déjà plein d'auditeurs et d'auditrices qui nous demandent mais où trouver les légumes de Lucie de Framont ? Vous leur répondez quoi ?
Je risque de vous décevoir parce que j'ai une toute petite production, mais je vends un peu sur commande à Vitry-sur-Seine.
À la ferme ?
À la ferme.
Et vous alimentez également une AMAP, je crois ?
J'alimente l'AMAP de Cachan, oui, le mardi.
Ils ont de la chance.
J'ai 2 jours de récolte par semaine.
Vous entendez la poêle dont va déguster en train de frémir ou de crépiter même carrément sur notre plaque de cuisson. C'est Adrien Ferrand qui nous propose cette deuxième recette qu'on va déguster dans un instant.
Je me pose la question de temps en temps sans prétention ni agenda. Est-ce que tu penses à moi souvent? Est-ce que tu penses à moi parfois? Du haut de ta vie loin de mes ennuis, belle dimension bien à l'abri. Est-ce que dans ta tête je suis là? Est-ce que tu me rêves dans tes bras parfois? Siento como un abrazo, cada palabra en mi piel como un lunar. A veces me acuerdo y a veces me olvido. Tu sais me plaire et bien...
De Solane avec November Ultra. Aujourd'hui, on se réconcilie avec un légume populaire, bon marché, délicieux, facile à cuisiner, de la tête aux pieds. Le poireau, évidemment.
On va déguster. François-Régis Gaudry sur France Inter.
Quand on y pense, Luc Bianassi, le langage populaire n'a pas été très tendre avec notre poireau, ce qui peut expliquer d'ailleurs aussi une certaine désaffection. On a peut-être un peu de mépris pour ce légume qu'on prend un peu pour un légume... voilà quoi, j'ai presque envie de dire un légume roturier d'un homme qui s'est fait faire des implants capillaires. On dit qu'il a un champ de poireaux sur la tête. Vous avez entendu en accroche, est-ce que vous reconnaissez ce film quand on parle
évidemment.
De poireaux?
Qu'est-ce que vous avez là?
Où ça?
Un
poireau.
Un poireau? Oh, c'est pas beau ça.
Si, je trouve ça très joli moi.
Oh non, c'est laid, c'est très laid ça. Il y a deux poils là-dedans, des grands poils.
Bah, Rabbi Jacob.
Et oui.
Dans la voie, dans la déesse, quand il est à la station-service avec les deux gendarmes.
Et en l'occurrence...
Et le poireau, c'est une espèce de gros poil qui pousse sur un bouton.
C'est même carrément une verrue molle, voilà. Surmontée d'une petite houppette de poils.
Voilà.
Pas très délicate,
non.
Évidemment. Alors, on va passer sur, évidemment, toutes les expressions à connotation grivoise concernant le poireau. Mais là aussi, ça range ce légume dans une certaine catégorie quand même.
Le fait que ce soit, on l'a dit, un aliment de la cuisine populaire, c'est incontestable. Poireauté, par exemple, attends, c'est parce qu'il est planté dans le sol. Enfin, ça renvoie à quelques évidences. C'est pas le seul à être logé à aussi mauvaise enseigne, sans doute. Je pense pas que ce soit ça qui explique le désamour. Historiquement, on trouve quand même le poireau aussi utilisé dans la cuisine aristocratique, quand même, au Moyen-Âge, avec ce qu'on appelait des porées. Enfin, les porées, enfin, ça tire son nom du poireau. C'est-à-dire des sortes de soupes épaisses, on va dire, à base alors d'abord de poireaux et après de légumes verts en général. Si on prend par exemple le Ménagier de Paris, qui est un traité culinaire de la fin du XIVe siècle, on trouve une porée blanche,
ah oui,
où sont utilisés des blancs de poireaux qu'on émince, qu'on lave, qu'on blanchit. Et puis on met des oignons, on fait frire avec des oignons hachés. Et puis on a une version grasse, c'est-à-dire où on met dans un pot ensuite avec de la viande de porc. Et une version maigre, pour les jours maigres, on ne devait pas manger de viande. Où là on le met avec du lait d'amande. Donc il y a des recettes de ces porées. Mais c'est un légume de potage, mais potage au sens large. C'est-à-dire, les potages, c'est ce qui ouvre le repas, dans les repas aristocratiques. C'est le début. Et on a des potages, tout ce qui est fait dans des pots, si vous voulez, soit qui peuvent être de légumes, simplement, donc c'est poré, par exemple, soit en accompagnement de viande, ou avec des viandes, cuit avec des viandes. Et ça, c'est le poireau. C'est un peu ça, son statut culinaire. On trouve ça aussi, même au XVIIe, XVIIIe siècle, on a tout un tas de recettes. On a par exemple un potage à la rhinocéros, une recette de 1755, où on voit qu'on intègre du poireau. Et finalement, ce statut-là, il n'a pas changé, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, même au XIXe siècle, on voit que le poireau, avant tout, c'est quand même un légume de soupe, un légume de potage, qu'on l'intègre dans tout un tas de préparations. Et puis, alors là, le potage par excellence, si je puis dire, ou plus, le bouillon par excellence, c'est le pot-au-feu. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le pot-au-feu, c'est un peu le plat national. C'est vraiment présenté comme ça, même chez Carême, Antonin Carême, en 1833, comme étant le plat national. Mais ce n'est pas le pot-au-feu tel qu'on l'imagine. Ce qui compte dans le pot-au-feu, c'est le bouillon. Le bouilli de bœuf, on en fait autre chose après. Ce qui compte, le pot-au-feu, c'est d'abord le bouillon.
Et pas de bouillon de pot-au-feu sans poireau.
Exactement. C'est-à-dire que dans toutes les recettes, chez Carême en 1833, et dans... Donc que ce soit des recettes plus simples, ménagères, ou chez Carême, on est dans de la cuisine de luxe, systématiquement, on trouve le poireau. Mais c'est une histoire longue, c'est-à-dire c'est ce poireau associé au potage et ensuite associé au potage, aux soupes, quand même jusqu'à aujourd'hui. Si on ouvre le... Ça ne veut pas dire qu'il est réduit à ça, mais c'est quand même sa vocation première dans la cuisine française, même si quand on ouvre le Larousse gastronomique de 1938, on voit qu'on a des poireaux braisés, on a tout un tas d'autres préparations. Mais ça ne change rien, je pense, à ce statut premier qui est le sien.
Mais on a quand même le sentiment, Adrien Ferrand, concernant le rôle culinaire du poireau, qu'il joue souvent justement les seconds rôles. C'est soit une garniture aromatique, le ver de poireau sert d'ailleurs évidemment à cette fameuse, ce fameux bouquet garni. Il accompagne d'autres légumes dans le bouillon du pot-au-feu, comme la carotte ou des légumes tubercules. Mais le poireau pour lui-même, alors il y a le poireau vinaigrette évidemment, vous nous avez fait une brillante démonstration. Il n'est pas si fréquent que ça en fait.
Non, en effet, il passe souvent au second rôle en tant que garniture. Là, on a fait devant vous une fondue de poireau.
Alors là, pour le coup, il est vraiment, c'est le poireau pour lui-même.
Ouais, exactement. Ouais. Là, il y a le vert, le blanc, il y a tout. Ciselé fin, donc émincé très fin, pardon. Et puis, on le fait étuver, donc un petit peu de matière grasse, un petit peu d'eau, un couvercle.
Quel régal.
Et ça, on pourrait s'en manger des paquets, quoi. Servi avec un poisson au four, au barbecue, avec une bonne sauce beurre blanc. Et n'ayant pas ce poisson et la sauce beurre blanc aujourd'hui, je vous ai fait finalement une emberrée de poireaux. Donc finalement, en fin de cuisson, j'ai mis un beurre demi-sel dans cette emberrée de poireaux. Et puis, quel ne fut pas votre étonnement, j'ai également mis un agrume encore.
Alors voilà, j'allais le dire. Et c'est on va vrai. Faire deviner l'agrume parce qu'on est joueur dans cette émission, vous le savez, évidemment, Adrien Ferrand.
Ah oui, je me disais bien qu'il n'y avait pas que du poireau. Là.
Non, mais là, on est carrément dans un truc prodigieux.
Ah, c'est très, très bien.
Il y a la souplesse du poireau, bien confit, légèrement compoté. Et il y a effectivement un agrume qui change tout. Je vous intime l'ordre de le trouver.
Moi, c'est vachement difficile.
Ah non. Non, là pour le coup, il y a un agrume très caractéristique qui sert notamment à faire
des parfums. Hein. C'est pas du kumquat ?
Non, il parfume.
Ah, c'est le Nancy, la bergamote.
Eh ben oui, la bergamote, parce qu'il parfume notamment, évidemment, le Earl Grey.
Exact.
Et là, moi, enfin, le goût de la bergamote,
ah,
je
oui, c'est
suis
la bergamote,
totalement
ouais.
dingue.
C'est ça, c'est une trouvaille, ça.
Qu'est-ce que vous pensez de ce plat, Lucie ?
C'est excellent.
Ouais, ils sont faits pour être ensemble. On pourrait leur rajouter un petit partenaire de classe pour ceux qui ont envie de mettre un petit peu de budget le dimanche. Truffe noire, en gros morceaux, avec ce poireau et la bergamote, c'est un banger.
Mais même sans truffe noire, oui, c'est quand même un banger. Pour utiliser l'expression d'Adrien Ferrand, ça veut dire vraiment un plat qui
une
fait
tuerie.
Bouche, quoi.
Une
tuerie. Une dinguerie.
Je dis ça parce qu'on est dans la saison.
Mais c'est surtout un accompagnement extraordinaire pour la Saint-Jacques.
Exact.
C'est vraiment un grand classique. Ouais. Et les grands classiques, ils sont des grands classiques. Et c'est pas par hasard. C'est vraiment, vrai. Ça fait un accompagnement absolument. Alors, le beurre blanc, un trait de beurre blanc sur une Saint-Jacques à peine snackée avec ça, c'est formidable. Hein.
Ouais, c'est très bon.
Vous servez cet emberré, par exemple, chez Hills ?
On ne va pas le servir forcément en emberré, mais en tout cas, le poireau, bergamote, poisson, il est là très régulièrement, et notamment, comme le dit Jérôme, avec la Saint-Jacques.
Ouais. Et ben, on viendra le déguster avec vous. Qu'y a-t-il dans nos verres ? Peut-être pour accompagner cette magnifique emberrée de poireau à la bergamote. Et bien, réponse avec notre chroniqueur vin, Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Bien, nous parlons d'un vin que j'aime beaucoup. Et vous savez, c'est très amusant parce que je regoute ce vin sur le plateau avec vous. Je le redécouvre, ça fait un mois que je l'ai goûté, ça fait plusieurs fois que je goûte ce vin, mais je l'ai goûté pour la dernière fois il y a un mois chez le vigneron. Eh bien, je le redécouvre et je le trouve encore meilleur qu'il y a un mois.
Il est régal, c'est un régal absolu.
C'est un délice, c'est fin, c'est élégant. Nous sommes à Saint-Chinian. Saint-Chinian, c'est une appellation qui fait 3000 hectares dans le Languedoc, dans le département de l'Hérault. Et nous sommes au nord de Narbonne. Et nous sommes chez un vigneron, je parlais tout à l'heure dans une blague extraordinairement fine, vous l'aurez constaté,
comme toujours.
Et d'une grande élégance, de France et de Navarre. Nous sommes chez Thierry Navarre.
Et voilà.
Alors Thierry Navarre, c'est un vigneron pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. C'est un vigneron qui a un domaine de 12 hectares à Roquebrun, dans la partie nord de l'appellation, sur les schistes, puisque Saint-Chinian, c'est une appellation qui est très particulière. Elle est à la fois sur des schistes et sur du calcaire. Hein, il y a vraiment deux parties dans l'appellation. Nous avons ce vin qui est issu d'un sol de schiste. Et alors Thierry Navarre, il a une grande qualité, c'est qu'il s'est intéressé à des cépages qui étaient plus ou moins en voie de disparition. Et en particulier, un jour, il découvre chez un vigneron un peu âgé de l'appellation,
un pied de vigne qui est du Ribeirinck.
Du
Ribeirinck.
Ah, là, vous parlez d'un vieux cépage.
Oui, R-I-B-E-Y-R-E-N-C. On peut l'écrire aussi Ribeirinck, R-I-V-A-I-R-E-N-C. C'est un cépage blanc et rouge, Ribeirinck blanc, Ribeirinck rouge. Nous avons ici un vin blanc avec une grosse proportion de Ribeirinck blanc. Et ce cépage, il est extraordinaire parce que Thierry me disait, notamment pour le rouge, et c'est, je pense que ça vaut aussi pour le blanc, qui est tardif, c'est un cépage, le rouge, qui récolte en général début octobre, nous sommes, je vous le rappelle, dans l'Hérault. Début octobre, mûr à 12 degrés, qui constitue aujourd'hui un véritable trésor,
évidemment,
en termes d'agronomie, et notamment pour les assemblages, ce qui permet de détendre, d'assouplir la fougue d'un grenache mûr qui monte un petit peu dans les degrés. Alors revenons à notre vin blanc, il est constitué de Ribeirinck blanc, donc, oui, de clairette et de grenache gris. Que des cépages qui sont endémiques de Méditerranée. Bien, le résultat, c'est qu'on a à la fois le caractère résolument méditerranéen en bouche de ce vin, parce qu'il y a une rondeur, un gras, une texture de bouche qui est assez caressante, et pour autant, il y a de la fraîcheur, aucune lourdeur. Il y a même une petite on se paye le luxe d'avoir une petite acidité
et
en finale.
Une fine amertume que j'apprécie beaucoup.
Bien sûr, ça fait partie intégrante de l'équilibre naturel des vins blancs méridionaux, issus de cépages qui ont naturellement assez peu d'acidité, et un nez qui évoque à la fois les agrumes, le fruit blanc. C'est aromatique, c'est parfumé, c'est fin et élégant. C'est un très très joli travail, c'est une très belle mise en valeur de ce terroir de Saint-Chinian qui produit des rouges très intéressants, des très beaux rouges, et des blancs qui ne le sont pas moins. Et encore une fois, chez un vigneron qui a fait un travail fou de renaissance des cépages, et c'est un travail qui a porté ses fruits, puisque grâce à lui, grâce à tout ce qu'il a fait, aujourd'hui, le Ribeirinck fait son entrée dans la catégorie des cépages principaux de l'appellation. Ça n'est pas une mince affaire, et donc je pense qu'on peut tresser une couronne de laurier à Thierry Navarre pour ça. Quand je vous aurais dit que ce vin vaut 11 euros la bouteille,
intéressant.
Je ne peux que vous inciter à vous précipiter, à la fois chez Thierry, localement, si vous êtes là, allez le voir, prenez rendez-vous, appelez-le avant. Si vous n'êtes pas dans le coin, vous pouvez l'appeler, vous pouvez passer commande. C'est un très très joli vin, ça fait honneur à cette appellation, ça fait honneur à la région méditerranéenne. C'est un authentique, vrai coup de cœur. Bravo Thierry Navarre.
Et vous diriez quoi d'un accord avec le poireau?
Eh bien, tout à l'heure, alors, l'accord avec le poireau vinaigrette, on avait cette dimension agrume, à peine sucrée, une jolie acidité, ça a fait, c'était une merveille avec ce vin. L'ambeuré, le vin se fait un petit peu bousculer en début de dégustation, mais il reprend le dessus en finale, il y a une très belle allonge dans ce vin. C'est un très beau vin, ça vaut 11 euros, donc on se dit oui, c'est un petit vin. Non, c'est pas du tout un petit vin. Le prix ne fait pas la qualité en l'espèce. Voilà un vin qui est très noble, à 11 euros, c'est totalement délirant. D'ailleurs, ça devrait en valoir 20, parce qu'il y a véritablement un très beau travail qui est fait pour ce vin. Et donc, avec l'ambeuré, eh bien, le vin revient en finale avec une très belle allonge sur les agrumes et ça vient épouser la bergamote. Donc, c'était un accord très réussi.
Vous appréciez ou pas?
Oui, tout à
ce
fait.
Saint-Chinian blanc.
Oui, c'est délicieux, c'est super aromatique. Belle longueur en bouche, en effet. Et puis, pourtant, ça vient du sud. Normalement, ça
mais oui, mais y a
tendance
de la fraîcheur
à être opulent, mais en fait, il y a beaucoup de fraîcheur.
Il y a un peu d'opulence et il y a de la fraîcheur. C'est pour ça que j'aime beaucoup.
Voilà, c'est ce qu'on aime dans ces équilibres.
Il y a un très bel équilibre, ouais. L'harmonie et beaucoup d'équilibre.
Bravo.
Les agrumes, vraiment, c'est parfait. Quoi.
Les références, en un mot.
Donc, ça s'appelle. Oui, j'ai pas donné la cuvée. La cuvée Lignière. C'est en vin de France, puisqu'il y a une grosse proportion de Ribeirinck blanc qui n'était en 2024, pas dans le décret d'AOC. Donc, c'est un vin de France, mais c'est bien le terroir de Saint-Chinian. Lignière blanc 2024 du domaine Thierry Navarre, 11 euros au domaine. Toutes les informations sont sur la page de l'émission.
Lucie de Framont, il y aura du poireau de Gennevilliers jusqu'à quand? C'est quand la fin de la saison dans votre domaine francilien?
Alors, comme tous les autres poireaux, la fin de la saison, c'est quand ça monte à fleurs.
Eh oui.
Donc, ça dépend un peu du climat.
C'est plutôt avril, début du printemps?
C'est plutôt avril, oui, c'est ça. En avril, il y en a toujours qui commencent à partir. Et puis, fin avril, c'est vraiment le royaume de la fleur pour les poireaux qui sont restés en terre.
Et dites-moi, Lucie, que vous cultivez, mais que vous cuisinez et consommez aussi vos poireaux de Gennevilliers?
Oui, bien sûr.
Ça se passe comment à la maison avec votre poireau?
Alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas souvent moi qui fais la cuisine.
D'accord.
En fait. Mais ça m'arrive quand même. Et bon, que ce soit moi ou pas, le plat de base de l'hiver, c'est la soupe. poireau, carotte, pomme de terre.
Ah oui, et le trio gagnant.
Si, voilà, même si le poireau n'est pas tout seul, ça fait vraiment un ensemble équilibré. Enfin, pour moi, c'est une base, tout simplement. Et puis, bon, la fondue de poireau, tout simple. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une fondue qu'on fait.
On fait ce qu'on veut.
Bon, voilà, on fait ce qu'on veut, on fait ce qui nous plaît. Mais c'est excellent. Enfin, franchement, c'est quelque chose que je peux manger... plusieurs fois par semaine, si le stock suit, parce qu'il faut les récolter aussi. Et après, en gratin éventuellement, ou en tarte. Tarte au poireau.
Ah, les quiches.
Ouais, quiches.
Bah oui, mais quiches au poireau, on l'oublie, bien mais sûr, évidemment.
Quiches au poireau, c'est un classique.
Quiches au poireau, éventuellement, avec un petit fromage de chèvre, ça peut aller très bien. Cher Adrien, votre troisième recette. Alors là, on est en format crayon, mini poireau.
Exactement, tout petit poireau.
Ce sont des bébés poireaux ?
C'est ça. Peut-être en avance sur le poireau d'hiver, étant donné qu'il est tout petit et très tendre. Navré pour la cuisson, il en manque un peu, mais c'était pas facile sur le plateau. Grillé presque à sec dans une poêle avec une goutte d'huile d'olive. Goûtez le goût qu'il y a sur ce poireau légèrement salé, on pourrait le sucer. C'est délicieux.
Wow.
Avec les noisettes, ça marche très bien pour ce côté torréfié. Et je voulais intervenir sur le barbecue, parce que le poireau, c'est pas qu'un légume d'hiver. Le poireau sur la plancha ou sur le barbecue, c'est absolument délicieux. Bien salé. Faut pas avoir peur de le marquer un peu, qu'il devienne pas noir, mais presque noir.
Mais d'ailleurs, le poireau brûlé a été une grande tendance chez les chefs. Hein.
C'est vrai.
En Espagne, au Japon... Je pense à un plat d'Éric Fréchon, 3 étoiles au Bristol, un poireau brûlé absolument magnifique.
Et puis là, il est accompagné donc d'un condiment qui me tient à cœur, dont je vous parle depuis plusieurs années, le tahini, donc qui est une pâte de sésame levantine, qu'on a monté avec jus de citron et eau. Ça, c'est absolument fabuleux.
Il est fou,
le poireau, ça marche super bien. Et il y a un petit jaune d'œuf confit pour apporter un petit peu de gras et un petit peu de liant à l'assiette.
Alors là, juste la sauce tahinée, donc sauce tahinée crème de sésame qu'on achète, qu'on trouve en magasin bio, dans les magasins orientaux, on y ajoute du jus de citron.
Du jus de citron, elle va durcir, on la détend à l'eau, on la sale, c'est terminé, et je vous conseille de toujours faire le double de la recette, parce qu'on en mange souvent la moitié pendant qu'on cuisine.
Waouh. Et l'huile de poireau, là, parce qu'il y a une huile verte.
L'huile de poireau, j'ai quand même fait une huile verte de poireau. C'est du vu et revu, mais en effet, on prend ces poireaux, les verres de poireau, pardon, on les hache fins, on les met plutôt dans un contenant eau, style un gros verre ou un verre doseur. On verse de l'huile neutre, colza, pépins de raisin, tournesol, assez chaude dessus, il faut légèrement se brûler de doigts. On les met dessus, on arrive avec un mixeur plongeant, et puis là, on mixe pendant 3-4 minutes. On passe dans un double sopalin, pardon pour la marque, un double papier absorbant, et puis on a une belle huile verte de poireau. Et nous, sur ce plat, on a fait légèrement cramer les verres de poireau au barbecue juste avant, et ça donne un goût encore plus torréfié.
Ah ouais, mais votre plat, il est absolument magnifique.
C'est le tahini, ça.
Les poireaux, crayons, comment vous l'appelez ce plat ?
On ne l'appelle pas.
D'accord.
On le mange.
Non.
Au tahiné.
Voilà, exactement. Poireau grillé au tahiné, ouais.
Poireau grillé au tahiné, la recette à retrouver sur franceinter.fr à la page, on va déguster. Et vous retrouverez aussi... J'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je fais depuis des années un condiment à l'huile de sésame et au verre de poireau émincé et légèrement frotté au sel pour accompagner un riz blanc, etc. C'est un condiment qui est très populaire au Japon et ça donne vraiment un émincé de verre de poireau magnifique.
En effet, le poireau, il marche super bien avec la cuisine japonaise, avec la cuisine levantine, avec la cuisine française. On peut faire tout un tas de recettes avec et je vous invite à le cuisiner de plus en plus.
Merci beaucoup Adrien Ferrand. Vous nous rappelez l'adresse de votre très bon restaurant.
27 rue d'Hauteville dans le 10e arrondissement et Brigade Utique pour manger un poireau plutôt asiatisant au 38 rue du Faubourg Poissonnière dans le 10e également.
On reviendra vous voir. Merci beaucoup Lucie de Framont. Bon appétit. On finit nos assiettes évidemment. Vous revenez quand vous voulez dans cette émission pour nous parler d'autres légumes. Merci beaucoup Loïc. Merci Jérôme.
Merci. Avec grand plaisir.
À la prochaine.
Oui,
la semaine prochaine de la cuisine indienne au menu de notre émission. L'excellente cuisinière Bina Paradin nous raconte en recette l'histoire de sa famille originaire du Kerala. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.